Voilà, oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded, sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, déserteurs d'inhumanité, lovers embrumés, orpailleurs d'identité, bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en riche compagnie avec Cathy. Salut Cathy.
Salut Sophie, salut tout le monde.
Mathieu.
Salut Sophie, salut tout le monde.
Salut Didier.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour Sylvain aux manettes.
Qui est Salut à tous.
au programme de ce cinémascope bien fourni, Black Tea, Dune, deuxième partie, Bob Marley, 20 000 espèces d'abeilles, et puis les petits singuliers, on va faire un point jeune public comme, comme d'habitude presque, c'est vendredi avec Olivier. Et puis on redira un mot évidemment du festival Plan Large qui commence dès ce soir à Lussas et se poursuit tout le week-end. N'attendons plus, c'est parti. Black Tea d'Abderrahmane Sissako, le réalisateur de Timbuktu, qui avait eu à l'époque cet Oscar. Vous êtes deux à aller le voir. Didier, d'abord, peut-être un mot sur, sur Timbuktu.
Non, pas sur Timbuktu.
Sur Black Tea, pardon.
Voilà, Timbuktu étant le film précédent de Abderrahmane Sissako. Et là, on est très très loin de Timbuktu. Donc, d'ailleurs, on n'est pas du tout sur la même thématique. On est dans un film qui se veut sensuel.
Ça part mal.
Oui, voilà. Donc moi, je vais être très rapide parce que j'ai pas beaucoup aimé le film. En deux mots, en Côte d'Ivoire, je crois, une jeune femme dit non le jour de son mariage. La séquence d'après, elle est à Canton. Elle parle parfaitement le chinois. Tout va bien. Elle est amoureuse de son patron qui tient un magasin de thé, qui est un homme très séduisant, avec un passé amoureux un peu compliqué, qu'on va plus ou moins découvrir. Alors, je crois que le film, ce que Sissako a voulu montrer, c'est ce qu'on appelle là-bas « Chocolate City ». C'est-à-dire que, aussi curieux que ça puisse être, moi je ne sais pas du tout ça, à Canton, et semble-t-il dans d'autres villes chinoises, existent des quartiers africains. Et là, je ne sais pas bien comment il veut montrer ça. On a l'impression qu'on est dans un espèce de monde totalement idyllique. Tout le monde est absolument sympathique, formidable, enfin c'est presque un rêve. Et d'ailleurs on se demande si ce film n'est pas un rêve quelque part. Même les flics chinois sont incroyablement sympathiques avec tout le monde, les immigrés, les autres et tout. Il y a juste à un moment un repas de famille où un vieux qui est complètement raciste et tout, mais on a un peu l'impression que c'est pour dire vous avez vu l'ancienne génération, comment elle était, puis comment on est nous maintenant, voilà. Donc moi je sais pas très bien où va ce film. Il n'y a aucune continuité, ni temporelle, ni géographique. Donc, on est en Côte d'Ivoire. L'instant d'après, on est à Canton. On va faire un petit tour en Thaïlande. On va aussi au Cap-Vert. Voilà. Donc, ça donne lieu, effectivement, à de magnifiques images. On a des images de champs de thé qui sont superbes et tout. Mais au bout du compte, moi j'avoue, je me suis beaucoup ennuyé. J'ai pas vu vraiment l'intérêt de ce film qui flirte beaucoup avec l'idée de In the Mood for Love, dont on se souvient, mais qui en est à mille lieues. Voilà, donc oui, c'est un joli film. Il y a des jolies séquences de sensualité, mais je vois pas bien l'intérêt, et je vois pas bien surtout ce que Sisako a voulu nous dire à travers ça.
Ce qu'on peut entendre peut-être dans la bande-annonce. Alors la bande-annonce n'est pas le film, mais c'est vrai qu'en regardant la bande-annonce, je me suis dit, ah, j'ai l'impression d'avoir peut-être vu ça mille fois, mais peut-être pas. Peut-être que toi, Cathy, tu as eu un autre regard sur ce film.
Oui, j'avoue que quand je l'ai vu jeudi soir, j'ai eu un sentiment de rester un peu sur ma faim, et puis le film continue dans ma tête, et finalement, moi j'y vois un film d'amour. En fait, ce réalisateur, il avait réalisé un film qui s'appelait En attendant le bonheur dans les années 2000, où il y avait une séquence où il y avait une rencontre entre une Africaine et un Chinois. Et donc, il est reparti de cette idée de la rencontre, du film d'amour, pour nous raconter l'histoire d'Aya et de Kai, le mec pour lequel elle travaille et qui lui apprend la cérémonie du thé. Alors, c'est vrai que le réalisateur survole plein de choses dans le film. Cette communauté africaine qui vit, là on est dans la ville de Canton, mais qui vit en Chine, c'est vrai qu'on n'en sait pas grand chose et on n'en sait pas beaucoup plus en sortant du film, mais bon, ça laisse aussi le spectateur peut-être aller voir. C'est bien aussi de ne pas tout expliquer au spectateur, moi je le vois aussi un peu comme ça, c'est une façon de dire, bah, allez vous renseigner, allez lire des choses là-dessus pour peut-être mieux connaître. Mais il y a voilà, plein de... Pour moi, ça a quand même été un moment un peu suspendu dans le temps, dans l'histoire, dans ce qui était raconté. C'est un film élégant. Il y a des surimpressions comme ça de séquences. Il y a beaucoup de scènes de nuit avec les lampions allumés. L'actrice, elle est merveilleuse. Cette actrice, elle est française, hein, Nina Mello. Et elle a appris le chinois, c'est impressionnant. Voilà, c'est vrai qu'on survole plein d'histoires. On survole l'histoire, le passé de cet homme dont elle tombe amoureuse. On ne sait pas vraiment si l'histoire d'amour est consommée, d'ailleurs. Et on ne sait pas comment elle part spécifiquement en Chine suite à avoir effectivement dit non le jour de son mariage. Malgré tout... Il y a une ambiance, il y a une élégance, ça pose le temps. Et c'est vrai que bon, il y a aussi plein de films qui sont très durs, très violents. Et moi, j'apprécie cette petite parenthèse malgré tout.
Effectivement. À voir au navire en ce moment. Black Tea d'Abderman Sissako. Un autre film peut-être moins suspendu.
It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom.
You dive in?
Yes, it's called swimming.
I don't believe you.
In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides.
Your father didn't believe in revenge.
What if Paul Atreides were still alive?
Quelques secondes de la très longue bande-annonce de Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. Mathieu. Dune. Donc, je disais oui, pas suspendu, mais en fait, peut-être que oui.
Eh ben, écoutez,
tu es resté perché.
Je vais parler de ce film avec mes ressentis. La salle s'éteint, l'écran reste noir pendant un bon moment. D'un coup, on entend cette voix, donc la voix du récit, c'est-à-dire cette voix qui est magique, quoi, qui est spirituelle et Ça parle de l'épice. Et je vais malheureusement pas pouvoir replanter le contexte de Dune parce que c'est tellement une œuvre incroyable. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il faut regarder le 1 avant. Voilà. Regardez Dune 1, première partie, sur un écran d'ordi, sur une télé, sur un téléphone, comme vous voulez, pour vous faire plaisir et voir le 2 en salle au cinéma. C'est une expérience qui est incroyable, il ne faut pas le louper. Ça serait bête de le louper parce qu'on n'a pas vu le 1, c'est ce que je veux dire par mes paroles. Et oui, oui, Sophie.
Juste, tu l'as vu en version originale.
Je l'ai vu.
Quand oui. Tu parles de la voix off, et ça aussi, c'est peut-être...
Et oui, oui, je pense que ça y fait beaucoup, mais je ne doute pas de la qualité de la version française, surtout avec Denis Villeneuve, qui gère ça très bien. Voilà, mais moi, en effet, je l'ai vu en VO. Comment parler de ce film à part que c'est un voyage qui commence dès que la voix nous parle à nous spectateurs, que le logo Warner commence et on est plongé dedans. C'est un film qui a une esthétique incroyable. C'est comme si tout ce qui a été mis en place dans le 1, c'est-à-dire le côté esthétique, la musique de Hans Zimmer, prenait sens ici. On parlait d'ailleurs, je crois que quand on en avait parlé l'année il y a 2 ans. Tu étais là, Didier, on parlait de l'épice un peu qui n'était pas contextualisée un peu dans le premier film.
Oui, on ne savait pas trop en fait à quoi ça servait.
Exactement. Bon, là, on y est. D'ailleurs, c'est pour ça que le film ouvre par ça. Et il y a un côté mystique qui nous transporte. Il y a... si pour parler sur le plan technique, on est... on ne sait pas ce qu'on voit, si c'est en studio, si c'est... dans un vrai désert, si ce sont des maquettes, si c'est... Parce que tout baigne dans quelque chose qui est irréel. La colorimétrie va changer au cours du film. La mécanique que l'on va voir sort de notre conception en termes d'immensité, de grandeur, de mécanique. À croire que ces machines existent vraiment, j'imagine même pas les gens qui ont pensé à... Je veux dire, voilà, c'est des machines qu'on pourrait créer et les voir fonctionner devant nous. Tout paraît réel. La musique elle sert un propos. Dans le 1, elle nous transportait. Dans le 2, elle sert vraiment un propos. J'insiste dessus parce qu'il y a un travail sur le son qui est quand même époustouflant. Mais là, Hans Zimmer, il signe une partition qui est une des plus grandes de sa carrière. Hein. Là, je trouve, si le 1, il y avait des aspects arabisants, etc., où on disait « Ah, c'est beau, c'est... » Mais il part dans une autre dimension. Il réutilise bien sûr la base du 1, mais là, il est... Bon, comment en parler sans trop en dire ? Aller vivre une incroyable expérience en salle. On a la chance, quand on voit ça, on se dit qu'on a la chance d'être en 2024 et de voir des bijoux comme ça en salle. On est au-delà d'une histoire... d'un blockbuster qui va servir un propos. Non, là, on est dans l'expérience même de la salle de cinéma. En fait, toute la technologie qui sort, les caméras, le son, tout est dans une alchimie qui est incroyable. Les acteurs, pourtant, ce sont des têtes connues. On pourrait sortir du film en disant « on voit un film, bien sûr ». Mais là, je ne sais pas comment se passe le tournage, mais ils sont dans le truc, quoi. C'est, on dirait qu'ils ont vécu un an dans cette histoire pour jouer comme ça. Voilà, en gros, c'est un gros coup de cœur. Je m'y attendais, hein. Il n'y a pas de surprise. Mais voilà, hâte de voir la suite parce que ça s'annonce incroyable. Ils filment et le pire, c'est qu'on sent qu'ils gardent des choses pour la suite qui arrive. Ils pourraient faire des choses exceptionnelles en termes de mise en scène. Ils pourraient tout... Mais il est dans la retenue et cette retenue nous c'est humble. Oui, une promesse pour l'avenir. Exactement, exactement. Voilà.
Je peux dire juste un tout petit mot. Moi, j'ai pas encore vu le film, mais je pense qu'il y a quelque chose de très très intéressant aujourd'hui par rapport à l'époque, les années 80, où le livre a été écrit. C'est que on est dans un monde futuriste et dans les films de science-fiction qui se passent 10 000 ans plus tard, en général, on a des technologies complètement incroyables et tout. Et là, l'humanité a eu une guerre avec les machines et les intelligences artificielles et tout ça est absolument forbidden. C'est donc on est aussi dans un monde très technologique, mais très mécanique. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez intéressant comme sujet de discussion autour d'un film.
Bien sûr, et en plus...
Et comme vision du futur. Ouais.
Et c'est ce film-là qui, par rapport au 1, qui, je trouve, qui est un, propose, en tout cas qui sa proposition d'une histoire incroyable en termes de premier film, elle est vraiment très réussie pour un premier film. Et ce 2, il est là, en fait, il s'éparpille pas, il s'intéresse à un sujet en particulier. Et ce sujet, je ne vais pas le définir en une phrase, ça serait vraiment ne pas faire honneur au film, mais la croyance, quand tant de personnes nous font croire à quelque chose, est-ce que cette chose devient vraie, vraiment ? Mmh. Est-ce qu'on est dans la bonne voie et quels sont les sacrifices à faire ? C'est vraiment, bien sûr, où est le bien, où est le mal, mais ça va au-delà de ça. C'est, voilà, laissez-vous transporter, quoi. C'est vraiment incroyable.
Très intéressant, ouais, cette question de la croyance collective. Bah, merci beaucoup. Et en plus, il est dans, évidemment dans beaucoup de salles. Hein, ici en Sud-Ardèche, au Navire, à Ruon, à Privas. Et la semaine prochaine, il sera au Teil. Un autre qui est dans quelques salles aussi. Well, jammin'. Hope you like jammin' too.
Where you wanna start? From the beginning. Reggae is a people music. People coming together. Ooh, yeah. You know you're a superstar. All right. Well, jam it. I'm a superstar. I wanna jam it with you.
C'est bon, cette musique, bien sûr, vous l'aurez reconnue. Bob Marley, One Love de Reinaldo Marcus Green, le fils de Bob Marley. Une bande-annonce longue, très longue, alors que le film ne l'est pas, 1h47. Ouais. Mais la bande-annonce là, avec un Bob Marley, moi, qui me semble loin de la set charismatique, magnétique. Je vais être critique des bandes-annonces, hein, mais encore une fois, une bande-annonce n'est pas un film. Donc,
oui. Il faut se méfier des bandes.
Exactement. Et toi, tu es allé voir... Olivier,
oui,
Bob Marley,
film.
One Love.
Oui, le film,
bien sûr. Pas que la bande-annonce.
Non, mais j'ai même pas vu la bande-annonce. Mais le film, en termes cinématographiques, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas une merveille. Hein. Vu comme Mathieu vient de parler de Dune, bon, ça va être difficile de défendre l'objet film Bob Marley, One Love. Quoi. Les acteurs sont effectivement... il est gentil, Kingsley Benadir, mais enfin, c'est pas Bob. Hein. Donc, effectivement. Et puis, la Shanna Lynch, c'est pas Rita Marley non plus. Mais on laisse tomber tout ça. On se dit que le film, il s'attaque quand même à un monument, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il s'avise de parler d'un homme tout à fait exceptionnel, Bob Marley. Bon... les termes sont un peu galvaudés, d'icône, de légende, etc. Mais lui, c'en est une, d'icône, de légende, complètement. Voilà, donc parler d'un homme comme ça en 1h47, c'est déjà pas simple. Il y a une autre dimension très importante qui est la dimension politique, c'est la décolonisation de la Jamaïque, c'est l'avenir d'un petit pays avec le phénomène de gang et puis les oppositions politiques extrêmes. Très forte, c'est en soi un sujet passionnant, surtout que l'homme, Bob Marley, est engagé là-dedans. Et puis, il y a une troisième page, un troisième chapitre, mais c'est même un troisième volume, qui est la musique. Parce qu'il est quand même, et comment dirais-je, il est presque l'inventeur de la seule forme musicale originale de la deuxième moitié du XXe siècle, quoi. En mélangeant le ska, le rock... Et en faisant le reggae, en réglant son son d'abord à Londres, puis aux États-Unis, il y a un travail musical énorme, dont Exodus 77 est l'exemple. Donc il faut parler de tout ça. Et qu'est-ce que fait le film ? Bah, il te fait quand même, il arrive à faire vivre ça.
Les trois volumes.
Oui,
autant
crois,
le côté politique, musical.
Oui, je crois. Honnêtement, je crois. Alors effectivement, je suis pas le spectateur. C'est-à-dire, j'ai pile l'âge qu'il faut pour voir ce film. C'est-à-dire que moi, Babylon by Bus, qui est sorti en 78, j'ai dû l'acheter en 80. Uprising, qui est sorti en 80, j'ai dû l'acheter en 81. Donc, ça tournait sur ma platine en boucle. Babylon by Bus, face A, B, C, D, etc. Donc, évidemment, pas aucune objectivité dans mon appréhension du film. Par contre, effectivement, je pensais Ah, tu parlais de la chance de voir Dune en salle. Bah nous, la chance de voir ça avec le son qu'on a au navire, quoi, quand même. Parce que quand ça commence à envoyer...
Oui, on entend quand même assez...
Ah ouais, il y a des moments... Alors, comme vous pouvez difficilement bouger, vous êtes coincé dans votre fauteuil. Bon, en plus, au Benaz, c'est pas vraiment Kingston, on va dire, hein. Et alors, il y a des substances qui manquent, quoi, forcément. Alors, on reste dans son... Alors, ça vous met en prière, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous avez le reggae qui arrive, Forever Loving Jah Rastafari.
Qu'est-ce qui vous reste ? La spiritualité, donc, yeah. C'est une vaste prière. C'est pas d'ailleurs aujourd'hui ou non, c'était hier, j'ai lu ça. La journée de la prière, la journée mondiale de la prière.
Ah bon ? Non, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours, bref, Rastafari. Et donc, voilà, non, moi, j'invite les gens de mon âge d'aller le voir pour le Remember,
et les
What It Was. Les plus vieux pour se rendre compte dans quoi on est tombé. Oui, c'est possible. À l'atelier philo, j'ai une personne qui vient, elle a 95 ans, donc c'est sûr que le film ne va pas lui faire le même effet qu'à moi. Voilà. Ça c'est dit. Voilà. Et puis les plus jeunes. Moi j'avais envie.
Ouais.
J'avais envie que mes enfants, à la limite, j'ai envie. D'ailleurs, ça doit être visible, hein, partout dans le monde. J'aimerais bien que mes enfants voient ce film pour qu'ils sachent ce que j'ai vécu, en l'occurrence quand j'avais le même âge que ma dernière, quoi. Autour du reggae. Moi, j'ai un souvenir que j'ai envie de partager, après je me tais, c'est que les concerts reggae dans la fin des années 70, le début des années 80, les concerts reggae, c'était un bonheur, quoi. Il n'y avait jamais une baston, il n'y avait jamais... c'était vraiment cool, man.
Mais tout le monde était stone.
Non, pas du tout. Ben non, on jouait au football, on faisait notre footing, tout comme Bob Marley, voilà. On était en forme et on n'avait pas le mélanome. Malin. Mélanome malin. Et donc, voilà. Donc, vraiment une invitation à vivre une petite... Parce que le film se déroule sur 2 ans, de l'attentat 76 au concert One Love 78, si je ne m'abuse. Donc, c'est sur 2 ans. C'est comme ça que le film se sauve, je crois. Mmh. En n'ayant pas voulu trop... alors, on a des petits flashbacks sur l'enfance de Bob. On a... effectivement, on sait ce que sa musique est devenue, mais le film, lui, a le bon sens de resserrer sur 2 ans. Voilà.
Bob Marley, One Love, à voir à Aubenas, à Rosières, à Rions, à Privas et au Teil. Allez, on continue.
Bueno, ¿cómo así? ¿Habéis venido? ¿Me llamas así de repente? Te estás separando.
Está muy hermosa.
Guapísima.
¿Eres médico?
Yo no. Ellas.
Zergatik ez duzu alborrinosak entzen?
Ba, ez dudalako nahi.
¿Qué pasa? No, es que no entiendo nada.
Es que me estás cogiendo y te estoy diciendo que pares. Y sigues.
Tía, estoy empeñada en hacerle ver que no hay cosas de chica ni de chico.
Jagelako mutil batek potuta dauka. Eta nolakoa da. Jatorra.
Des choix.
Et oui, c'est ça. Il était en train de le dire. Nous sommes à l'antenne. 20 000 espèces d'abeilles par Estibaliz Uresola Solaguren.
Bravo, Sophie.
Ouais. C'était un petit défi personnel que tu es allé voir, donc, Didier.
Oui, j'ai pas regretté cette fois. Donc, c'est un film. Déjà, c'est un film assez rare puisque c'est un film qui nous vient du pays basque espagnol en langue basque. Donc, ça arrive petit peu de temps en temps au cinéma, mais c'est quand même relativement rare, qui a obtenu 3 Goya, quand même, hein, scénario, meilleure jeune réalisatrice et jeune actrice, puisque c'est une petite fille qui doit avoir une dizaine d'années, qui est absolument merveilleuse dans le film.
Sofia Otero.
Voilà, Sofia Otero. Donc, on est pendant l'été, c'est l'histoire d'un enfant. Et quand je dis un enfant, c'est bien... Je le dis bien, puisque c'est un petit garçon à la base, mais qui lui est persuadé d'être une petite fille, 8 ans. Donc c'est l'âge des interrogations qu'on pose, mine de rien, comme ça, aux adultes et tout. Et ça se déroule pendant une vacance, et vraiment une vacance au sens propre, hein, c'est-à-dire un moment, entre parenthèses, dans le temps. Il fait très chaud, on est au Pays Basque, toute la famille est réunie dans un endroit qui est un peu paradisiaque, en pleine nature. voiture. Alors quand je dis toute la famille, c'est pas seulement papa, maman, c'est aussi les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Et il y a plein d'abeilles tout autour, puisqu'on a une grand-mère apicultrice. Et on a cet enfant donc qui est en pleine interrogation, donc qui s'appelle Aitor, mais que tout le monde appelle Coco, et qui, lui, va choisir de s'appeler Lucia. et c'est assez déterminant dans le film. Il y a peu d'hommes. C'est un monde de femmes, des femmes qui sont elles-mêmes dans une certaine interrogation sur leur vie, leur famille, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles auraient dû faire, ce qu'elles n'ont pas fait. Toutes voient c'est cette différence avec cet enfant, mais il n'y a aucune hostilité. Alors, il y en a qui disent quand même, tu devrais faire attention, il se met un peu trop d'ongles de vernis sur les ongles, mais d'autres comprennent complètement. Donc ce petit garçon, petite fille, est un peu en liberté totale au milieu de ses abeilles et de ses gens. Donc c'est un film, évidemment, sur la quête d'identité. Mais ce qui est très beau aussi, c'est que c'est aussi vraiment un vrai film de vacances. On sent, mais presque physiquement, l'été, la chaleur, le temps libre, la nature qui est en plein épanouissement. Et puis cette espèce de parenthèse, comme je disais tout à l'heure, qui est propre à l'introspection et aux interrogations. Même si, en même temps, on passe son temps à faire la cuisine, à bavarder, à boire des coups et des choses comme ça. Alors, vous l'avez compris, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille vivement d'aller voir. Et puis quand même, on est obligé de reparler de Sofia Otero, moi qui m'a énormément fait penser à Anna Torrent dans un film qui, vous le savez, est cher à mon cœur, qui s'appelle Cría Cuervos, où on a aussi dans Cría Cuervos une séquence très très forte de vacances à la campagne. Et on reconnaît presque dans le regard, c'est les mêmes, quoi. C'est assez fantastique à je sais pas, 50 ans, 60 ans de distance de retrouver ça. Voilà. Donc un film que je conseille fortement.
20 000 espèces d'abeilles, pourquoi ? Parce qu'il y a 20 000 espèces d'abeilles, donc elle peut bien être...
Oui, donc elle peut bien être une troisième espèce, quoi, ou une quatrième, ou une cinquième.
À voir, donc surtout à Priva, et la semaine prochaine, le film sera projeté au Regain du Teil. On ouvre notre petite parenthèse jeune public rapidement avec un film, enfin, ou plutôt une série de 4 courts-métrages réunis sous le titre Les Petits Singuliers, 4 courts-métrages qui nous viennent d'Allemagne, de France, de Lituanie et
Tchéquie.
C'est ça, et de Tchéquie, de République tchèque.
Oui. Eh bien, écoute, moi je tiens ma petite parenthèse cinéma jeunesse, surtout quand on a des occasions comme ça de voir autre chose, parce que c'est quand même ça, ces 4 courts-métrages. Il y en a 2 poupées 3D, là, un petit peu comme Interdit aux chiens aux Italiens, là, vous voyez, cette esthétique-là.
Image par image.
Voilà. Et puis 2 en 2D qui eux-mêmes sont dans des esthétiques très différentes. Alors, ils ont été regroupés sous le terme « Les petits singuliers » parce que ce serait le thème commun à ces 4 courts-métrages. Je trouve que c'est un peu discutable. Ils sont ces 4 courts-métrages, donc c'est 15 minutes, 14 minutes, 7 minutes, 11 minutes. Il y a quand même le temps de développer à chaque fois une petite histoire qui a sa particularité, sa singularité elle-même, donc qu'il faut, à mon avis, respecter, et qui dépasse largement la problématique de l'acceptation de la singularité. C'est surtout, en fait, celui en 2D, le garçon et l'éléphant, qui est explicitement sur ce thème-là, qui, à mon avis, d'ailleurs, est philosophiquement... Le sous-texte est pauvrissime, c'est un peu dommage, mais autrement, on va dire que on a quand même 4 histoires très différentes avec 4 esthétiques très différentes, et que je pense qu'il faut emmener les enfants voir ça, parce que ça nourrit quand même autrement mieux l'imaginaire que certaines daubes qui nous viennent des États-Unis.
Non, on ne redit
c'est
pas parce que
pour les tout petits.
Parce que
non, c'est pas pour les tout petits.
Non.
Ah non, c'est pas pour les tout petits.
Non, d'accord. C'est pas les 3-6 ans.
Et puis même moi, je me suis régalé, d'accord, en particulier avec les 2 courts-métrages 3D là, avec les poupettes. Et tout particulièrement le premier, qui raconte l'histoire d'un garçon qui vit dans un phare avec un casque de scaphandrier et qui rencontre une jeune fille qui vient de l'espace à bord d'une navette et qui a elle aussi un scaphandre, mais pour d'autres raisons.
Laika et Nemo.
Et c'est une rencontre qui est une rencontre amoureuse qui va bien au-delà de l'acceptation de la différence par les autres, enfin, etc. Vraiment. Donc voilà, je tenais à dire qu'il faut voir ça si on peut, et on peut cet après-midi au navire. Nous sommes en vacances, allons-y. Il y avait dans le public quand j'y étais beaucoup de parents, beaucoup d'enfants, avec des questions d'enfants. C'est un régal.
Cet après-midi à 15h, désolé pour celles et ceux qui écoutent la rediff, c'est trop tard, mais peut-être qu'il sera reprojeté une prochaine fois. Les petits singuliers. Un mot, voire même un petit peu plus, allez, on a 5 minutes pour parler de Plan Large. C'est l'événement cinéma de ce week-end qui commence dès ce soir avec They Shot the Piano Player à 18h et puis qui va se poursuivre tout le week-end avec quelques films dont on n'a pas suffisamment parlé peut-être mardi. Donc si ça vous intéresse, allez réécouter l'émission L'Onde Curieuse de mardi midi, où nous discutions justement du Festival Plan Large. Et Cathy, toi tu voulais insister aussi sur certains films, notamment Los Reyes del Mundo, peut-être, dont on n'a pas suffisamment parlé.
Oui, parce que le Festival Plan Large qui fait donc écho cette année au cinéma sud-américain, ça permet aussi de voir où en sont ces filmographies. Et Los Reyes del Mundo, c'est un film colombien. Donc, il n'y en a pas forcément énormément de films colombiens, et c'est une réalisatrice qui a eu des prix, de nombreux prix, et notamment au Festival de Saint-Sébastien. Là, on est quand même sur un film qui présent, enfin passé et présent, on a quand même dans le cinéma colombien une volonté de montrer les inspirations des jeunes et leurs rêves, parce que effectivement ils sont sur plutôt sans espoir et sans argent. Donc là on est encore dans cette thématique, mais il y a une énergie incroyable dans le film.
Un premier film,
ouais. Et effectivement c'est un, elle a grandi avec cette image de garçon des rues de Medellín qui sont un peu qui sème le chaos et la violence. Et là, on est avec ces jeunes-là, pré-ados. Il va y avoir le gouvernement va proposer à un de ces ados d'aller récupérer une des terres qui leur avait été enlevée, voilà, quelques années plus tôt. Et donc, ils vont partir dans un périple, dans une espèce de voyage pour aller jusqu'au bout et récupérer ce bien. Et franchement, c'est un film très impressionnant, très très maîtrisé cinématographiquement. Et voilà, j'avais envie de le défendre, tout comme défendre Levante, qui est un film lui brésilien, qui parle, enfin là aussi, qui est assez incroyable sur la façon dont il est filmé, et on suit une jeune.
Voleuse
qui et ça va traiter de l'avortement, le fait que l'avortement soit interdit au Brésil, et aussi ça pose un petit peu l'état du pays, la force de la religion, et c'est plutôt pas mal. Et donc à travers tous ces films, on va aussi, moi j'ai envie de repositionner un petit peu où en sont ces filmographies, et ça va être intéressant, j'espère. J'espère qu'il y aura plein de monde.
Juste un tout petit mot. Moi, je vais insister sur They Shot the Piano Player,
qui
est un film vraiment qui est sorti, mais dans un anonymat, mais alors le plus total. Mm-hmm. Alors que je pense que c'est un film important aussi. C'est une sorte de documentaire fiction en animation sur un jazzman enlevé, presque plus ou moins par erreur, par les militaires argentins, et qui a disparu, qu'on n'a jamais revu, voilà.
C'est une histoire vraie.
Ah oui, c'est une histoire vraie, tout à fait. Oui, c'est vraiment très, très intéressant et musicalement formidable.
Ouais, on en avait passé pas mal d'extraits. C'est une plongée dans la bossa nova. Donc ça, They Shot the Piano Player, ce sera ce soir à 18h,
qui fait l'ouverture.
Et les deux films dont tu as parlé, Cathy, qui qui propose une énergie de la jeunesse, peut-être. Ce sera samedi après-midi, samedi 2 mars, samedi à 14h, pardon, pour Los Reyes del Mundo et à 17h pour l'Evente. Juste un mot aussi pour dire que, pour poursuivre la soirée de samedi, le repas, tu voulais simplement dire...
Oui, je voulais simplement dire que malheureusement, il n'est plus possible de réserver. Nous avons, toutes les places ont été...
Vous avez tout mangé.
On a tout mangé, donc voilà. Mais il y aura d'autres solutions. Il y a le food truck qui est là. Et donc, il sera possible de manger des bons burgers brésiliens, argentins, colombiens, enfin voilà. S'inspirer autrement que le repas que nous avions prévu.
C'est Fabrice qui fait les hamburgers ?
Tu voulais...
C'est Fab.
Oui, je crois.
Ah ouais, c'est très bon. Hein.
Tu voulais dire un autre mot, un dernier mot ?
Eh ben, merci beaucoup. venez nombreux au Festival Point Large. C'est vrai que c'est un festival qu'on aime beaucoup, qui est beaucoup travaillé aussi avec les bénévoles de la structure, parce que de la programmation, même si on fait des propositions, mais de la programmation jusqu'au moment, c'est encore la force du collectif qui fait que c'est une réussite en principe. Ce week-end, il devrait pleuvoir, donc venez voir des films en salle.
Venez donc à l'USAS ce soir, vendredi, jusque dimanche. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Merci Sylvain, et on se retrouve vendredi prochain pour un prochain Cinémascope.
Voilà, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe. What is this? Oh, that's easy, old man. She's not hurt.